Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec ça, votre santé, des fois, on fait pédaler la machine hein, pour qu'on puisse avoir un peu d'énergie. On parle de dos aujourd'hui avec Aline Perraudin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes directrice de la rédaction de Santé Mag et vous publiez Le dos en compote, sous-titré Si on arrêtait d'avoir mal chez Flammarion. Vous remarquerez que quand vous arrivez. Alors là, j'ai un exemple, la pile poil, ça passe mal à la radio, mais je suis en train de désigner mon ami Mehdi. C'est que quand vous arrivez à la radio. Et que vous avez mal au dos, alors vous savez, ce petit côté un peu voûté ou traîné, et là, il y a toujours quelqu'un, une âme charitable qui vient vous voir, qui dit, tu sais, je connais le meilleur ostéopathe de Paris.
C'est vrai. Maintenant, j'ai la meilleure kiné en plus, alors
voilà,
t'imagines qui est à deux pas de la radio.
Voilà. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous proposer le, alors, kiné, ostéo, chiropracteur, tout ce que vous voulez, miracle. Qui va vous remettre.
Mais pourquoi il a mal au dos alors? Si c'est si miraculeux.
Non, attendez, non, commencez pas comme ça. Ça vous est jamais arrivé ça de voir des gens qui viennent tous, ils vous sortent tous. Alors il y a l'ostéo.
Parce qu'il l'ostéo surtout.
Le meilleur de Paris, ou de France d'ailleurs, ou du monde. Et alors après, il y a ceux qui ont les chirurgiens esthétiques, mais ça, ils le disent pas comme ça. Les implanteurs de cheveux aussi.
Ça, on ne dit pas, on évite.
Je vous jure que je connais des gens qui disent je connais le meilleur implanteur de cheveux. Non, mais c'est vrai que pour le mal au dos, on a quand même, on voit ça.
On a ça, alors que là, par exemple, vraiment, la première chose à faire quand on a mal au dos, c'est pas, par exemple, d'aller voir un kiné. Il y a plein d'études qui ont montré que le kiné était bien plutôt pour des douleurs chroniques, donc pas immédiatement. Alors, quand on va voir l'ostéo tout de suite pour bouger, pour se dire, il va nous remettre.
Et c'est ça que les gens veulent.
Il va nous décoincer.
Voilà, quand ils ont mal, quand ils sont pris, qu'ils sont bloqués, la seule chose qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les décoince.
Qui les décoince, alors ils pensent généralement que c'est des vertèbres, qu'on a des vertèbres coincées, déplacées quand on a mal au dos. Bah, souvent, c'est pas ça, c'est plutôt des contractures de muscles. Si on avait des vertèbres vraiment déplacées, on aurait beaucoup plus mal.
Bien, alors Aline Perraudin, vous n'êtes ni médecin, ni kiné, ni ostéo, ni
chiropractrice. Je le dis, mais j'ai eu mal au dos et j'ai regardé beaucoup d'études médicales pour justement me dire qu'est-ce que je dois faire.
Voilà, et vous ne parlez dans votre livre ni de hernie discale, ni d'arthrose, ni d'ostéoporose, ni de rhumatisme inflammatoire, mais de ce que vous appelez le mal au dos le plus répandu, la lombalgie commune.
C'est en fait 90 à 95% des cas, c'est-à-dire que la plupart du temps, la lombalgie qu'on dit commune, porte bien son nom, n'est pas grave médicalement. Elle nous empoisonne la vie, mais elle n'est pas grave.
Alors, il y a quelque chose qui ne nous arrange pas, c'est que vous écrivez que la plupart des lombalgies communes, donc celles dont vous parlez, ont des causes qui ne sont pas toujours expliquées, qui sont mal connues.
Ben oui, on ne sait pas encore trop. Il y a en fait très peu de recherches. On ne sait pas trop pourquoi tout d'un coup on a mal au dos. Alors, souvent, on explique que c'est des contractures de muscles profonds. Et on a dit longtemps que en fait, le remède, c'était le repos. Et là, on voit bien que non. Toutes les études l'ont démenti. Et d'où la campagne de l'assurance maladie, d'ailleurs, qui dit que c'est le mouvement. Parce que si on se repose, c'est généralement ce qu'on a envie de faire quand on a mal. On se dit, on va se mettre au repos, il faut vraiment limiter son effort. Eh bien, on va encore, les muscles, on ne va pas les faire travailler. Les ligaments vont s'en raidir. Donc, on va accroître la lombalgie. Donc il faut essayer de se maintenir en mouvement, mais bien sûr dans la limite de la douleur.
Parce que effectivement, quand on a vraiment mal au dos, on a du mal à faire les choses quand même.
Mais quelqu'un qui aurait un travail de force, mais ça, je veux dire, il faut quand même essayer de se lever, de maintenir une activité.
De par votre profession, donc, vous êtes en contact avec les meilleurs spécialistes professionnels, les meilleures études. Vous partez aussi de votre expérience personnelle. Donc, on va dire que c'est un livre de bon sens ajouté de toutes les études auxquelles vous avez accès, en gros.
Oui, j'ai regardé les études médicales et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de traitements inappropriés. C'est-à-dire que souvent, on va prendre des médicaments et c'est, encore une fois, ce n'est pas la bonne solution. L'efficacité des médicaments dans la lombalgie commune est très modérée.
Les fameuses antalgiques que vous allez prendre pour limiter la
puis
douleur.
Ils ont beaucoup d'effets secondaires quand même, on le voit, le paracétamol. Et puis, alors, je ne parle pas des médicaments un opioïde dit faible dont on peut être dépendant. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de se mettre en mouvement et en prévention aussi. On ne le dit pas assez. Éviter le mal de dos, c'est bouger. Mais vraiment, on ne le fait pas. La sédentarité est une maladie, ça le tue. Et surfer sur Internet, ce n'est pas faire du sport.
D'accord. Donc concrètement, on ne sait pas toujours pourquoi on a mal au dos.
Alors, les gens vont dire, j'ai fait un faux mouvement, ça commence souvent comme ça. Mais pourquoi on a mal au dos quand on s'est penché et que tout d'un coup, paf, on a une douleur? Peut-être qu'on avait une musculature trop faible. Et que ça, c'est ça la vraie cause.
Si j'ai bien compris votre livre, déjà, on passe quand même une grande partie de notre journée au travail.
Bon. Oui, pour beaucoup d'entre nous.
Et beaucoup de gens sont assis.
Oui.
Bon. Donc, comment est-ce qu'il faudrait découper notre journée pour avoir un bon dos?
Alors, il y a plein d'études, il y a plein de recommandations. Certains vont dire qu'il faut se lever toutes les 30 minutes, mais pour être clair, ça peut varier selon les spécialistes.
J'ai regardé les études que vous publiez, les chiffres que vous publiez, selon les gens qui découpent les journées, en gros.
Voilà. Bon. Alors, bon, en fait, ce qu'il faudrait, c'est si on peut déjà chaque heure, on peut se le dire, d'essayer de se lever. Je pense que certains métiers, on peut quand même essayer de se lever. Après, quand on sent des tensions dans une position, c'est de changer de position. En fait, il n'y a pas de position mauvaise en soi. C'est celle qu'on garde trop longtemps qui est mauvaise. Là, par exemple, vous êtes assis, vous êtes obligé de rester assis. Enfin, vous pourriez peut-être vous lever.
Non, je pourrais me lever.
Bah, voilà, génial.
Je pourrais faire l'émission debout.
Eh bien, en fait, c'est pas mal. Vous pourriez faire une demi-heure debout, une demi-heure assis. Et en fait, ça serait peut-être pas si mal parce que là, c'est bien quand on est assis d'avoir les pieds qui touchent le sol, d'avoir un bon appui, ça c'est important, d'avoir les bras qui touchent la table, donc à l'horizontale, donc de se sentir confortable. Et puis après, dès qu'on sent qu'il y a une petite tension, ben on bouge les épaules, on s'étire les bras. Voilà, ça c'est... Et on ne le fait pas souvent. Et en fait, l'idée qu'il y ait une mauvaise position, non, c'est plutôt celle qu'on garde trop longtemps. Et ça, on le sent, parce qu'on commence à se sentir pas bien.
Ce qui est mauvais, c'est de garder toujours une même position.
Mais oui, c'est comme l'alimentation, je le compare. Si vous mangez que des brocolis, a priori, les brocolis, c'est bon. Mais si vous mangez que ça, ce ne serait pas bon pour vous. Ben, même une position qui est bonne, par exemple, vous tenir droit, comme on dit... Ben, ce ne serait pas bon pendant 10 heures. Il faut vous lever, bouger.
Alors, il y a une phrase que vous citez d'un chercheur dans votre livre. « Ne gardez jamais une posture plus de 2 heures quand elle est bonne et plus d'une heure quand elle est mauvaise.
Ben, » je trouve que son conseil est bon et qu'on peut l'appliquer surtout.
Alors, on peut s'avachir sur le canapé, vous dites?
Ben, en fait, les études ont montré que quand on est à peu près à 135 degrés, c'est plutôt confortable pour les lombaires. Alors, voilà, donc on peut... On voit des ados qui aiment bien.
Je crois que les mamans vont nous comprendre, c'est la posture avachie de l'ado. Nous, quand on nous a élevés, on nous a dit « tiens-toi droit ».
On nous a vraiment dit ça. Et bien, on peut s'avachir, encore une fois, si on ne reste pas trop longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on est notre corps a besoin de bouger. Il a besoin d'avoir des postures, je dirais, passives, d'autres plus actives. On est tendu, on est détendu. Et voilà, c'est cette succession qui fait le mouvement.
Ça se voit. Alors, je ne sais pas s'il y a de plus en plus, mais en tout cas, on commence à le voir en entreprise. On voit des tables surélevées et de plus en plus de postes de travail avec des ordinateurs dessus qui sont en hauteur. Est-ce que ça veut dire que le secret, ça serait de travailler debout?
Alors ça, c'est souvent les gens qui sont assis qui disent que c'est génial de travailler debout. Mais vous demandez à des gens qui travaillent continuellement debout, il y a quand même une fatigue. Donc il y a une fatigabilité, il y a aussi... Alors là, on peut avoir d'autres problèmes, notamment d'insuffisance veineuse, avoir mal aux jambes. Donc en fait, je dirais que c'est un peu un luxe. C'est bien d'être... quand on est tout le temps debout, souvent on fatigue beaucoup plus vite. Donc l'idée, c'est d'avoir des bureaux debout pour alterner avec la position assise. Encore une fois, vraiment un message à faire passer, essayez de bouger quand vous sentez un inconfort et alternez les positions.
Beaucoup on a beaucoup de personnes qui ont des métiers de la conduite qui nous écoutent. Ben, ils écoutent la radio parce qu'ils ont le temps. Des chauffeurs-livreurs, des chauffeurs de poids lourds, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de VTC ou de véhicules ambulanciers qui, à un moment donné, se plaignent de maux de dos. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient mal au dos, finalement. Donc, ils ont tout essayé, les sièges à bout, oui. Enfin, tout ça, les bons sièges, changer de voiture, tout ça. Mais finalement, ça a une explication, c'est que quand on conduit trop aussi ou qu'on passe une journée 8 ou 10 heures par jour dans sa voiture, on est sujet au mal de dos.
Oui, et puis en plus, il y a un effet supplémentaire, il y a l'effet des vibrations qui n'est pas bon. Donc là, effectivement, il faudra plus compenser. Et notamment, quand j'ai écrit mon livre, j'ai vu des personnes comme ça qui avaient mal au dos et étaient obligées de conduire toute la journée. Mmh. Et en fait, les personnes qui se sont sorties, c'est essayer d'arriver dans un emploi du temps souvent bien chargé, quand même d'avoir une activité physique ou avant, trouver des moments pour marcher aussi. Mmh. On va sortir de sa voiture, on va essayer de faire quelques pas. C'est pas gagné, hein, c'est pas forcément la panacée, mais il faut essayer vraiment de compenser la station assise, en plus avec les vibrations de la voiture.
D'ailleurs, souvent, vous vous bloquez le dos quand vous avez un long trajet en avion. Alors, vous ne savez pas pourquoi, puisque bon, vous faites pas souvent le lien. Mais par exemple, un long trajet en avion, c'est très mauvais pour le dos, par exemple.
C'est pas bon, d'où, encore une fois, même les recommandations, on dit se lever très souvent. Parce qu'effectivement.
Mais alors, on ne dit pas pour le dos, on dit pour la circulation du sang.
Mais c'est aussi pour le dos. Parce qu'en fait, quand on est statique, ben c'est là, c'est toujours dans l'immobilité qu'on risque d'avoir mal après. Mmh.
Donc, je disais que votre livre est un livre de bon sens, finalement, puisque...
En fait, je me dis, le bon sens, il n'est pas partagé. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que regardez bien, la première chose qu'on fait, on a une attitude passive. On a tendance à prendre des médicaments. Et comme vous le disiez, aller voir un ostéopathe ou un kiné.
Non, enfin, on a tendance à aller voir le premier qui va nous débloquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est la solution de facilité. On ne supporte pas d'être bloqué, donc on va tout de suite vouloir que quelqu'un vous débloque par magie.
Par la magie. Mais la magie ne règle pas le mal de dos. Parce que le mal de dos, pour le prévenir, c'est le mouvement.
Pourquoi ? Expliquez-moi pourquoi, finalement, alors que mon ostéopathe, il va me débloquer, hein ?
Pas forcément. Regardez les études. L'Inserm a publié...
Si,
on ne va pas parler de vous, personnellement.
Non, mais si, mais
après, c'est en moyenne... Il peut y avoir, quand il y a une contracture, il peut vous débloquer, comme certaines personnes ont encore toujours mal. Ils vont dire, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux 2 jours plus tard? C'est pas forcément l'ostéopathe. Ça peut être simplement la bonne résolution du mal de dos. Alors, il y a une efficacité modérée. Après, ça dépend beaucoup du praticien. Ça, vous le savez. Il y a des bons et des mauvais ostéopathes. Il y a des formations différentes, d'ailleurs, des écoles différentes. Et puis... Pour être très clair, le mal de dos, c'est quand même en gardant sa mobilité. Donc, c'est vraiment le premier message. Et l'assurance maladie n'a vraiment raison de le marteler.
C'est-à-dire que ne restez pas allongé toute la journée en pensant que le fait de rester allongé, ce qu'on disait sur les sciatiques, tout ça avant, on disait restez allongé, surtout ne faites rien.
On préconisait le repos total et l'alitement. En lombalgie commune, encore une fois, quand c'est une contracture d'un muscle, l'idée, c'est de se garder la mobilité pour justement pas s'enraidir encore plus et aggraver le mal de dos.
Bon, on l'a compris, changer de position. Je vais changer de position parce que là, je me suis mis debout. mais c'est vrai que le secret pour ne pas avoir mal au dos, donc si j'ai bien compris ce que vous nous dites aujourd'hui, Annie Perraudin, c'est d'alterner les positions. Donc, les spécialistes canadiens, américains disent qu'en fait, il faudrait découper sa journée en demi-heure, en gros. Voilà, on se lève, on se rassoit, on bouge, en tout cas. On ne garde pas la même solution.
C'est ça.
C'est ça. Hein.
C'est très, très important. Et après, pour les personnes qui ne peuvent pas, elles essaient, avant leur travail, après le week-end, de marcher. Alors là, je parle aussi des activités physiques, parce qu'il y a beaucoup d'études.
On va parler notamment de quels sont les bons sports
qui permettent
pour le dos.
De compenser l'immobilité et la sédentarité.
Aline Perraudin est avec nous. Son livre s'appelle « Le dos en compote ». Et si on arrêtait d'avoir mal, aux éditions Flammarion, on parle de nos dos aujourd'hui jusqu'à 13h.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Composez le 01 53 48 3000.
Le dos en compote, on en parle ce matin, c'est le titre du livre de Aline Perraudin qui est notre invitée aujourd'hui. Et si on arrêtait d'avoir mal, aux éditions Flammarion. Et dans votre livre, vous revenez sur beaucoup d'idées reçues qu'on a sur le dos. Alors déjà, le dos, c'est solide.
C'est plus solide qu'on ne pense. Généralement, la plupart des gens, quand ils ont une lombalgie commune, enfin, je veux dire qui n'est pas liée à une maladie spécifique, pensent que c'est grave encore aujourd'hui. alors que c'est une contracture de muscles, donc ce n'est pas grave. C'est, ça fait mal, mais ce n'est pas grave.
Bon.
Ça, c'est la première idée reçue. La deuxième, c'est qu'il faut se reposer. Donc, encore une fois, il faut essayer de garder sa mobilité, c'est le plus important pour le dos. Troisième chose, c'est que il faut vraiment bouger et essayer de se muscler pour garder, renforcer son dos. Ça, c'est très important. Et qu'on arrête de dire tel sport, telle activité est mauvaise pour le dos. Ça, c'est encore une idée reçue. Le dos est solide.
D'accord. On va prendre une activité dont on a dit qu'elle était souvent l'ennemi du dos. C'est le footing.
Ah oui.
Le footing, le jogging, on a souvent dit que c'était l'ennemi des articulations et notamment du dos. Donc, visiblement aujourd'hui, on revient sur cette idée. Pourquoi ?
Alors, il y a eu des études qui ont montré que, en fait, la course à pied n'était peut-être pas aussi mauvaise qu'on le disait. Pourquoi on disait que c'était mauvais ? On disait, quand on court, effectivement, il y a l'impact sur le sol. Et là, on disait, ben, on abîme la colonne, il y a trop de pression.
Surtout si on a du poids en plus,
voilà,
et des mauvaises chaussures, donc vous ne faites que...
Alors, attention, c'est vrai qu'il faut... le footing peut être recommandé, mais il faut toujours être bien chaussé. Ça, c'est très, très important. Mais ce qu'on a vu, c'est que au fond, c'était pas si mauvais pour les disques. Vous voyez ces petits amortisseurs entre les vertèbres qu'on a ? Eh bien, en fait... Quand on court, on appuie sur le sol, mais après, il y a la propulsion. Et là, ça, ces différences de pression, en fait, sont bonnes pour nos disques intervertébraux qui n'ont pas de... ils ne peuvent pas... Ils sont pas... Il n'y a pas de... Pour se nourrir, c'est en étant compressés et décompressés. Et comme ça, ils vont pomper de l'eau dans leur milieu environnant et donc, ils vont être mieux hydratés. Donc ça, première chose, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément mauvais pour les disques. Et en plus, c'est très bon la course à pied parce que ça muscle le dos. Donc, les études montrent que le footing n'aurait pas été interdit, encore une fois, dans la limite de la douleur. Quand on est vraiment coincé, on ne fait pas le footing
donc,
le jour même.
Mais contrairement à ce qu'on a dit pendant des années, le fait de courir régulièrement, ça ne malmène pas la colonne vertébrale.
Ça ne la malmène pas, à condition encore d'être bien chaussé. Ça, c'est extrêmement important.
Alors, on a beaucoup d'idées reçues, hein, d'ailleurs, sur les pratiques sportives. Alors, si on écoute également les messages qu'on nous renvoie souvent, on dit, voilà, le sport idéal pour les personnes qui souffrent du dos, c'est nager.
Oui, alors c'est vrai que la natation, c'est un sport génial, parce que ça muscle l'ensemble du corps, on n'est pas porté. Parce que le problème de... là, on parlait de la course à pied, c'est plutôt mauvais pour les genoux et les hanches, qui sont des articulations portantes, bien plus que pour le dos. Donc, évidemment, on est un tout. Il y a des personnes qui ne peuvent pas courir parce qu'elles ont mal aux genoux. Mais là, on parle du mal de dos. Alors, le mal de dos, on a dit, oui, c'est génial, c'est des sports non portés. Ben, on voit que non, que la course à pied peut être bénéfique parce qu'elle muscle, justement.
Donc, et non seulement, elle ne traumatise pas, mais en plus, elle serait bénéfique.
Voilà. Ouais. Quant à la natation, eh bien, n'en déplaise, même si c'est un sport qui muscle, qui n'est pas porté, on voit, des études montrent que parfois, elle est souvent mal pratiquée, notamment la brasse ou le crawl. Et au contraire, quand elle est mal pratiquée, elle peut donner des tensions au cervical et au lombaire. Donc, c'est très bien la natation quand on la pratique bien. Alors, pourquoi
donc,
forcer
il faut nager
des gens
sur le dos, c'est ça que vous voulez dire.
Alors, voilà. Alors, on dit, mais nager sur le dos. Vous avez essayé ? Moi, j'essaie, hein. Samedi, j'ai encore essayé d'aller dans une piscine municipale, nager sur le dos.
Oh, mais évidemment, grosse comme vous êtes, vous avez dû couler.
Ah mais non, mais moi, je prends des bleus partout. Je veux dire,
c'est parce qu'en fait, il y a trop de monde.
Mais il y a trop de monde.
Oui. Non, il faudrait avoir une piscine perso. C'est vrai.
Moi, si je ne peux pas avoir une piscine perso voilà, et ça. Pas beaucoup de monde peut avoir une piscine perso.
Donc, en fait, effectivement, oui, c'est vrai dans l'absolu. Mais effectivement, quand on est un jour de grande affluence, parce que c'est, quand on ne travaille pas, on y va comme tout le monde, on prend des coups.
Donc, c'est une nage difficile à pratiquer. Donc, si on est bon nageur, on continue, évidemment. Mais alors, si on n'aime pas l'eau, on ne se force pas. Et si on préfère aller faire son footing, on continue aussi.
Il y a toute une série de sports qu'on va arriver, puisque il y a beaucoup de modes aussi. Alors, par exemple, le pilates. Si on prend tout ce qui est pilates et tous ces sports-là à faire à la maison.
Alors oui, alors toutes les, là on est dans le toutes les gymnastiques douces. Alors le Pilates effectivement c'est un c'est très très à la mode. On en voit dans là on peut en faire un peu partout dans beaucoup de salles. Et il y a eu des études, alors on pourrait, c'est étonnant, mais qui ont essayé de d'évaluer l'efficacité de toutes ces gyms. Et le Pilates ça a l'intérêt de vraiment essayer de recentrer, vous voyez, sur le au niveau du vent, de renforcer la musculature, de bien se tenir. Et il y a des Mais en fait, les études montrent un intérêt, mais un intérêt parfois plus important de faire du Pilates que d'aller voir son médecin qui va vous donner quelques conseils. Donc c'est quand même important. Mais à l'inverse, parce que vous entendez toujours quelqu'un, moi je fais du Pilates, c'est l'activité. Eh bien, c'est pas forcément la seule activité. Elle est intéressante. Mmh. Il y a aussi d'autres activités comme le yoga, qui permet aussi d'étirer, de muscler, et aussi un travail sur la respiration, parce que je pense que ça, on ne le dit pas assez, mais la perception de la douleur aussi, c'est important. C'est pas uniquement le mouvement, on va avec le yoga, on va réapprendre à respirer, on va peut-être apprendre à pas focaliser son attention sur la douleur, mais justement sur d'autres parties de son corps. Donc ça c'est efficace. Oui, le tai chi.
Aline Perraudin, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui s'imaginent même pas en rêve un jour faire du yoga.
Mais pourquoi ?
Ou faire du tai chi.
Mais le tai chi, vous avez vu, on voit dans les films.
Oui, dans les films.
Vous avez bien. Et dans les jardins, on en voit maintenant.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui, pour l'instant, ne sont pas psychologiquement pas prêts à franchir le pas.
Ah, moi, je trouve.
Est-ce qu'aujourd'hui, le yoga, tout le monde s'y met, vous voyez ?
Il y a quand même, il y a de plus en plus d'adeptes qui veulent ouvrir, comme ils disent, leur chakra. Mmh. Alors après, on trouve beaucoup de salles, un peu partout en province, même, où on peut. On trouve des cours de yoga. Alors après, c'est le yoga, l'hatha yoga, le simple, doux. Mmh. Et en plus, ce que je trouve bien dans ces disciplines, c'est qu'elles sont accessibles à tout âge. Donc c'est quand même important parce que franchement, on n'a pas toujours... Et quand on est, par exemple, en surpoids, courir, c'est pas évident. Donc faire du yoga, se mettre à une gymnastique
douce... Parce que c'est beaucoup plus facile de faire du yoga quand on est en surpoids que de courir.
Mais courir quand vous êtes vraiment en surpoids, c'est pas évident. Demandez autour de. Alors que se mettre à une activité douce, si vous exercez sa souplesse, et on ne parle jamais assez de la souplesse et de la mobilité, qui sont extrêmement importantes pour le dos.
Finalement, le secret pour le dos, c'est d'être mobile. Hein. C'est vraiment la sédentarité qui est mauvaise. Les activités, c'est comme tout. Toutes les activités ne vont pas à tout le monde. Donc peut-être qu'il faut commencer par trouver la bonne activité qui convienne à chacun d'entre nous.
Vous avez tout à fait raison. En fait, la bonne activité, c'est celle qu'on va pouvoir refaire régulièrement. Alors, c'est pour ça que, en fait, chacun doit trouver son activité. Et alors, sachant que des études ont montré que la marche permettait d'améliorer le dos, donc ça, on peut tous et on doit tous marcher.
J'ai regardé, vous savez, moi, je n'arrive pas à comprendre là, cette histoire de pas par jour, là, les gens qui comptent les pas. Alors, si vous faites moins de 5000 pas par jour, vous êtes un sédentaire. C'est page 28. Hein. Si vous faites entre de 5000 à 7499 pas par jour, vous êtes faiblement actif. Si vous faites de 7500 à 9999 pas par jour, vous êtes modérément actif. Donc vous êtes actif si vous faites entre 10 000 pas et 12 499 pas par jour et très actif si vous en faites plus de 12 500 par jour. Bon, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va tous s'amuser à compter nos pas pour savoir quel genre d'actif on est ?
Alors, moi, je trouve, au début, je rigolais quand je voyais ces applis sur le nombre de pas, etc. Mais essayez. En fait, vous vous prenez vite au jeu. Quand vous avez un smartphone qui vous permet de compter vos pas, ça peut aussi vous motiver. Donc, peut-être qu'on peut parler en pas, parce que beaucoup de gens, certains d'auditeurs ont là un smartphone avec le nombre de pas. Et ils vont regarder, ils vont se prendre au jeu, ils vont se dire, bon, je m'y mets, et ils vont regarder sur un mois ce qu'ils ont fait. Après, on peut parler en temps. Mais le pas, ça peut être un élément motivationnel. Et surtout, on s'aperçoit généralement, si à midi, là, on n'est qu'à 3000 pas, on peut peut-être se dire qu'il faut essayer de marcher un peu plus et descendre d'une station de métro avant, descendre d'une station de bus avant. Donc
pour le dos, combien il faut qu'on... Enfin, combien il faut que...
Il faut être le plus actif possible. Donc, pour le dos, franchement, si vous faites... On le dit, 10 000 pas, c'est pour la santé et le dos.
C'est vrai que c'était François Hollande, moi, qui faisait 10 000 pas. quand il avait acheté l'application. Je crois qu'il avait 10 000
mais,
pas. Donc 10 000 pas, on sait combien ça fait en kilomètres par jour.
10 000 pas, c'est énorme. Parce que si on compte un pas, c'est à peu près 75 cm, ça fait à peu près 7,5 km. Donc c'est 7,58 km.
Dans une journée, c'est pas mal déjà.
Oui, ah ouais, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais effectivement, c'est bien parce que pour nous, c'est carrément un exploit quand on est sédentaire. Et on devient de plus en plus sédentaire. Mais honnêtement, essayons le matin, essayons le soir, le midi, prendre une demi-heure, on y arrive.
Bon, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que j'ai tort et que oui, les applications qui comptaient pas, ça aide.
Ça peut aider certaines personnes, il y a un côté ludique. Après, si vous préférez en termes de temps, mais au fond, moi je préfère dire, ah là j'ai fait 3000, je peux en faire 3000, que de me dire tout de suite, il faudrait que je fasse 8 km. Parce que là, je vais me dire, j'y arrive pas.
Oui, non, effectivement, si on commence à calculer en kilomètres, c'est...
Le pas, il y a un élément motivationnel.
Alors, il y a ce que vous appelez le modèle biopsychosocial du dos. Donc, notre dos, il encaisse toutes les émotions. Qu'est-ce qui va se loger dans le dos?
En fait, quand on a mal au dos, c'est des tensions. Mais des tensions physiques, eh bien, souvent le stress, il vient sur notre dos. On en a plein de dos. Alors vraiment, l'expression, elle est...
Mais alors pourquoi vous avez choisi le dos en compote et pas plein de dos?
Ah, parce que y a pas, on peut avoir mal au dos parce qu'on a le dos en vrac. Moi, c'est vraiment parce qu'on ne bouge pas assez. Et le dos, en avoir plein de dos, c'est plutôt sur la lombalgie chronique. C'est quand ça s'installe. La lombalgie aiguë, on en a plein de dos quand vraiment dire qu'on en a plein de dos, c'est pas avoir la lombalgie comme ça parce qu'on a fait un faux mouvement. Donc on peut avoir le dos en compote sans en avoir plein de dos. Alors quand on en a plein de dos, souvent effectivement c'est du stress, c'est des tensions, et on voit que les personnes qui ont tendance à avoir mal au dos de façon récurrente et chronique, ben, il peut y avoir une dimension effectivement psychologique, et notamment de mal-être au travail.
D'accord, donc ça, c'est les études le montrent.
Les études le montrent, et elles montrent assez précisément que quand, par exemple, il y a un manque de reconnaissance au travail, qui est fréquent, eh bien, on a tendance à avoir des personnes ont mal au dos. Quand il y a un manque aussi d'entraide entre collègues, ben, c'est plutôt des douleurs au cervical. Quand on demande trop aux gens, ça va être les lombaires. Donc il y a même des études qui ont montré selon les formes de pression, où la douleur pouvait se porter sur le dos. Et ce n'est pas uniquement, je le dis, en instituant par exemple du massage, ça va être là un problème d'organisation du travail, au-delà du siège.
On parlait du poids tout à l'heure. On conseille souvent aux personnes qui ont tendance à avoir mal au dos de se délester de quelques kilos superflus. C'est une vraie ou une fausse idée? Ou une vraie fausse idée?
Alors, pourquoi pas? Mais ce que je n'aime pas, c'est que souvent, on dit ça, puis on ne dit pas comment. Alors, perdre des kilos, ce n'est pas facile. Le surpoids, il n'est surtout pas bon pour le genou et la hanche.
Moins pour le dos qu'on le...
Moins qu'on le pensait. Et là, des études récentes montrent que c'est peut-être moins le surpoids que la graisse abdominale, qui est un facteur d'inflammation et donc qui serait un facteur d'aggravation de la douleur. Bon, certes, être en surpoids, c'est pas bon. Et souvent, c'est lié à la sédentarité. Mais ce qui est bien, au lieu de culpabiliser les gens, et c'est de leur dire comment faire. Donc, plutôt de leur dire avec leur surpoids... essayer de bouger un peu, de remettre en activité, de les accompagner plutôt que d'être dans cette perdre des kilos. Parce que c'est pas si simple. Non, donc plutôt non, par le mouvement, et là peut-être qu'elles retrouveront d'ailleurs, elles perdront un peu du poids.
Bon, on l'a compris, vous avez mal au dos, bougez. Aline Perraudin est notre invitée ce matin, son livre s'appelle Le dos en compote et si on arrêtait d'avoir mal, aux éditions Flammarion.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes? Composez le 01 53 48 3000.
Aline Perraudin, notre invitée, directrice de la rédaction de Santé Mag, et qui publie aujourd'hui Le dos en compote. Et si on arrêtait d'avoir mal, aux éditions Flammarion. Donc, c'est le fruit de son expérience personnelle. Elle a testé parce qu'elle a eu mal au dos. Voilà, donc elle en a eu marre d'avoir mal au dos, donc elle a testé, elle a fait le parcours du combattant. Dans votre livre, vous essayez de un petit peu faire sauter plein d'idées reçues qu'il y a, et c'est vrai qu'on entend tous, parce que comme tout le monde a mal au dos, tout le monde a plus ou moins sa petite combine, son petit truc. Mais pourquoi le vôtre, il est mieux que le nôtre?
Alors, déjà, je dirais que j'ai plus mal au dos.
Bon, déjà.
Deuxièmement, je crois effectivement, une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, je ne crois pas
donc
que...
Donc, c'est multifactoriel, par exemple.
Je raconte mon expérience, mais ensuite, j'ai interviewé des spécialistes. Deuxièmement, j'ai surtout regardé les études. Parce que je crois quand même qu'il faut parler un petit peu de science. Parce que de dire, je connais un tel, j'ai été voir tel ostéo, c'est formidable, ça ne suffit pas. C'est quand même là du niveau du conseil le plus bas. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir regarder une médecine par les preuves et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce qu'on entend beaucoup de choses vraiment fausses. Donc ce qui marche, c'est la remise en mouvement.
Alors, il y a ce que vous appelez les thérapies bidons.
Ben oui, il y en a quand même beaucoup des thérapies bidons.
Est-ce que les thérapies bidons, c'est les thérapies auxquelles vous ne croyez pas? Ou comment est-ce que vous les débusquez, vous, les thérapies bidons,
en fait,
Aline Perraudin?
Moi, je vais voir les études médicales. Il y a l'INSERM qui évalue des pratiques. Aline Perraudin, on s'en fout.
D'accord,
Mais moi, je vais voir les études et je regarde. Donc, on voit, par exemple, que l'ostéopathie a une efficacité modérée, que la kinésithérapie, c'est très bien en cas de lombalgie chronique, parce qu'elle permet de la rééducation, de la remise en mouvement justement, mais qu'elle n'est pas indiquée en cas de lombalgie aiguë. Donc, parce que c'est pas tant le massage qui fait du bien que de la remise en mouvement.
Mais la petite lombalgie commune dont vous traitez dans votre livre, c'est-à-dire de celle qui vient quand on a jardiné, quand on a porté un bagage et qu'on a fait un faux mouvement ou qu'on a déménagé par exemple un week-end, la lombalgie qu'on a le lundi matin, elle relève de qui?
Elle relève, alors il faut que je le martèle, de soi. C'est-à-dire, on reste déjà en activité. Ensuite, qu'on puisse se faire aider. Alors, il y a des médicaments, on essaie de les prendre. On va voir un médecin qui peut prescrire des médicaments qui va aider à justement rester en mouvement. Mais encore une fois, c'est une aide, ce n'est pas que la solution. Deuxièmement, il y a des manipulations. Alors là, il y a effectivement le chiropracteur ou l'ostéopathe qui va faire des manipulations, mais encore une fois, l'efficacité est modérée. Et ça ne sera pas suffisant pour éviter des récidives. Ce qui est important pour guérir du mal de dos, c'est d'essayer de maintenir une activité et ensuite, pour prévenir les récidives, de garder du mouvement, donc de continuer à marcher, de continuer d'essayer de pratiquer une activité. Je sais, ça fait pas
donc
plaisir.
Donc ne vous reposez pas quand vous avez mal au dos, il faut continuer à être actif.
Voilà. Et essayer de trouver du plaisir dans des activités. Déjà, plus on est actif, moins on ressent la douleur. Je ne sais pas si vous plongez dans une activité que vous aimez bien.
Vous avez tout un chapitre que vous consacrez au rapport qu'on a à la douleur. Alors après, la douleur, il y a des gens qui sont plus ou moins douillets, il y a des gens qui supportent plus ou moins la douleur, il y a des gens qui aiment plus ou moins avoir mal.
Mais on a des seuils de douleur différents. Mais en fait, on s'aperçoit que, par exemple, les gens qui sont actifs ont un seuil de douleur plus élevé, c'est-à-dire qu'ils vont moins ressentir la douleur. Et quand vous êtes en activité, bien, la douleur, généralement, ne va pas capter toute votre attention. Il y a aussi d'autres techniques pour des gens qui ont des douleurs chroniques. Toutes ces techniques de méditation, de sophrologie, ça va aussi permettre d'éloigner la douleur et de changer la perception qu'on a de la douleur.
Alors, il y a toute une série d'exercices qu'on peut pratiquer également, hein, qui sont bénéfiques pour le dos. Il y a la posture du chat, le demi-pont, la planche à diagonale, la barque Superman, la posture de l'enfant, la posture de l'enfant.
Alors, la posture de l'enfant, c'est une posture que j'aime bien. C'est une posture notamment qu'on fait en yoga. C'est parce que c'est cette posture où on fait le dos rond. Ça permet de détendre ses lombaires et on récupère. Il faudrait toujours l'avoir, le faire le soir. Alors, moi, je trouve que le matin, se faire un petit programme d'exercice, c'est pas mal aussi. Parce que on va se dérouiller et on est beaucoup mieux. En fait, le fait de se détendre, le stretching, c'est bon pour le corps, mais aussi pour l'esprit. rhizosacée, on est plus clair, on se sent plus léger. C'est vraiment
c'est-à-dire que déjà, commencer sa journée par combien de temps à peu près?
Oh, mais franchement, si on fait même un quart d'heure, même 10 minutes...
Ah, c'est pas mal déjà, un quart d'heure, 10 minutes de stretching. Hein.
C'est bien.
Ouais.
Et on peut, mais on commence 5, 10, et après, vous allez voir, on devient accro, en fait.
Et puis ça fait de moins en moins mal, en fait.
Ah oui, après on gagne en mobilité. Et là, on est aussi content de voir les progrès qu'on a fait. Parce que franchement, quand vous êtes souvent, je vois des gens qui se retrouvent à se remettre au sport et qui n'arrivent plus, par exemple, à tendre les jambes. Enfin, tendre les jambes. C'est... On est complètement...
On dit rouillé.
Rouillé. Donc, essayer de se dérouiller, c'est le meilleur traitement.
On dit qu'on est rouillé. Mais... Qu'est-ce qu'on risque finalement subitement? Allez, tiens, quelqu'un va vous écouter aujourd'hui, Aline Perronin, il va dire je vais faire du stretching. Mais est-ce que c'est pas pire de faire mal des étirements tout seul que de rien faire? Ça s'apprend aussi. C'est pareil dans les étirements. Parfois, on peut faire des mauvais étirements qui peuvent être mauvais.
Alors ça, on dit toujours ça. C'est attention au mouvement. En fait, ce qui est le pire, c'est de pas bouger. Alors aujourd'hui, on a plein de choses, honnêtement. On peut avoir accès, vous regardez gratuitement, à plein d'exercices sur YouTube. On peut faire... Vraiment, moi, j'ai commencé comme ça, en suivant des coachs virtuels, en fait. Hein. Et on fait un petit peu, si on sent... C'est toujours dans la limite de la douleur. Toujours dans la limite de la douleur. On commence, évidemment, pas avec ceux qui vont nous faire du yoga acrobatique, mais des petits exercices très simples. On se fait un petit enchaînement, vraiment pour débutants, franchement.
Donc, ça veut dire on commence sa journée, on fait ses petits étirements.
Très bien. Et après, on marche, par exemple.
Est-ce que finalement, avoir mal au dos, c'est accepter qu'on vieillit, qu'on est vieux?
Alors,
ça, regardez pas comme ça.
Ah ben non. Vous avez l'air très sportif.
Je vous réinviterai.
Alors ça, je m'insurge contre ça, parce qu'effectivement, c'est l'idée que, voilà, on vieillit, donc il est normal d'avoir mal au dos. Eh bien, non. Il n'est pas normal d'avoir mal au dos parce qu'on a passé, je sais pas, 40, 50, 60, 60 ans. Souvent, c'est une excuse. D'ailleurs, on se dit, oh ben oui, mais c'est normal que j'ai mal au dos, j'ai 60 ans. Non, c'est normal parce qu'on a, on fait plus de sport, surtout on n'a plus d'activité physique.
Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on a mal au dos, c'est parce qu'on ne bouge plus qu'on a mal au dos.
Mais alors, quand, par exemple, les kilos s'accumulent de 30 à 50 ans, on voit des gens qui prennent 10, 20 kilos, qui ne bougent plus. Mais c'est pas spécifiquement l'âge, c'est le fait que depuis des années, ils n'ont plus de musculature, ils ont du gras à la place des muscles.
Vieillir, écrivez-vous, c'est prendre conscience que ses organes sont plus vieux que soi.
En fait, j'ai un peu dans ma tête, je suis un petit peu plus jeune que visiblement mes organes, enfin ce que me dit la médecine. Mais je pense que par l'optimisme, on se connaît aussi mieux, on sait ce qu'on aime, donc on peut tout à fait rajeunir. Parfois, je crois qu'on peut rajeunir. On va se sentir vieux à 40 ans, puis on se reprend en main. Vous voyez des gens comme ça qui se disent, ou à 50 ans, ils se remettent à faire du sport, et on peut à tout âge se remettre au vélo, se remettre à la course à pied. Vous voyez des gens à 60 ans qui ont une forme formidable.
Alors, je connais une personne de 85 ans, mais c'est phénoménal parce qu'elle l'applique. Hein, et dans sa tête, elle pense qu'elle a 50 ans. Et elle se comporte comme une femme de 50 ans.
Si elle pense ça, elle va certainement être centenaire, cette dame.
Elle pense que dans sa tête, elle a 50 ans, et elle marche, elle s'habille comme une femme de 50 ans. Ce qui fait que c'est phénoménal, parce qu'elle n'est... Vous savez, elle n'est pas voûtée. Elle, dans sa tête, elle a 50 ans.
Alors, pensez qu'effectivement, on doit être voûtée à 70 ans.
Mais elle se comporte... Mais même dans sa façon de vivre, voilà, c'est...
Eh bien, alors,
elle ne s'économise pas, elle marche au même rythme, vous voyez.
Elle a tout compris. Et alors, il y a des études qui ont montré que quand on se sentait
incroyable.
Jeune,
ouais.
Ben, on le restait. Ben oui. Ben oui, on le reste.
Ouais, c'est incroyable. C'est une forme de programmation mentale, hein, bien sûr. Mais ça fonctionne, en tout cas.
Et elle est certainement mobile, souple, voilà, parce qu'elle a confiance en son corps. Elle ne se dit pas, je suis limitée par mon âge.
Quelle confiance vous faites à ce qu'on appelle l'imagerie médicale aujourd'hui? Parce que souvent, quand on a mal au dos, vous vous envoyez faire une petite radio.
Alors là, encore une fois, beaucoup de rapports disent que il y a trop d'examens prescrits. Il y a encore une étude des parutions dans The Lancet, c'est quand même une revue médicale internationale, qui dit attention aux examens inutiles. Quand on a le mal de dos, pas de signe d'alerte, pas de, de maladie spécifique, si votre médecin ne vous prescrit pas d'examen d'imagerie médicale, il n'a pas tort quand c'est une douleur récente. Voilà, il faut l'imagerie.
Quand c'est une douleur récente, c'est-à-dire à partir
de moins de 6 semaines.
Donc à partir de quel moment on s'est recommandé?
Vous avez un mal au dos, vous allez voir un médecin. S'il ne vous prescrit, ne lui demandez pas forcément un examen si il ne vous le prescrit pas.
Ça va vous rassurer. Enfin,
ça rassure pas parce que vous allez voir, vous avez passé 40 ans, vous allez passer une radio, un scanner, une IRM. Personne n'a un dos parfait. Donc on va voir, vous allez voir des anomalies, on va vous dire des horreurs, alors qu'ils ne sont pas en lien forcément avec...
Alors qu'est-ce que vous appelez une horreur? Si vous avez de l'arthrose et quoi?
On va peut-être vous déceler effectivement de l'arthrose, mais qui n'a pas de lien avec votre douleur. Et il y a une étude canadienne, ça, qui date de 95, ça fait quand même longtemps, qui montrait bien, et il y en a eu d'autres depuis, qui montrait bien qu'en fait, l'examen médical peut en fait attirer l'attention sur une anomalie, et au contraire, inquiéter, affoler. Donc... l'examen n'est pas la solution. Votre médecin peut avoir... Là, reposez-vous sur votre médecin, mais arrêtez de lui demander des examens inutilement.
Bien, on va terminer avec votre condensé de votre philosophie du dos. C'est page 161 dans votre livre. Tiens, vous dites-nous un petit peu, ça fera le résumé de l'émission sur ce que vous pensez, vous, et votre, cette philosophie que vous avez créée. D'ailleurs, on appelle ça le pérodisme.
Philippe. Alors, ça paraît, mais redire qu'on est incarné, que sans corps, nous n'existerions pas, nous sommes liés à la matérialité du monde par le corps. Ben, je trouve ça important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à un peu l'oublier, notre corps. Et on l'oublie, on mouline dans nos têtes, on veut plus faire d'efforts. Ben, notre corps, il a besoin de bouger. Voilà. La vie, c'est mouvement. Ça, c'est quand même extrêmement important de le redire. Un corps qui ne bouge pas s'use.
C'est pas l'inverse. Voilà. C'est pas parce qu'il bouge qu'il s'use.
Le dos nous structure. Notre colonne vertébrale est soutenue par les muscles posturaux, invisibles car profonds, d'où l'importance d'un travail musculaire. Le dos s'apprend.
Alors le gainage, hein, vous avez oublié le gainage, mais ça aussi on en parle souvent du gainage. C'est pas tous les jours rigolo le gainage, mais bon, il faut le faire, c'est la base.
Le dos s'apprend, bien d'où on en parlait, de ces disciplines orientales comme le yoga, le tai chi, et puis il y en a d'autres, toutes ces gymnastiques qui permettent de mieux comprendre notre dos. Et avec une meilleure conscience corporelle, ben, on se vit de manière plus ergonomique. Voilà, parce qu'on a confiance en soi, en son dos, on se dit qu'il est solide. On est comme cette dame dont vous parliez à 85 ans, elle a confiance en elle et en son dos.
Elle ne le sait pas encore qu'elle a 85 ans. Mais je pense que si on lui disait, ça lui ferait un choc. Et si vous êtes assis, donc levez-vous. Si vous êtes debout, asseyez-vous. C'est ça, bougez, alternez-vous. C'est bon pour le dos. Merci Aline Perraudin d'être venue nous voir aujourd'hui. Votre livre s'appelle « Le dos en compote ». Et si on arrêtait d'avoir mal, on dédie cette émission à tous ceux qui souffrent du mal au dos. Parce que franchement, c'est...
C'est le mal du siècle.
C'est embêtant. Franchement, quand on a mal au dos, on se sent comme un petit vieux, vous voyez. Et on se met à marcher comme un petit vieux.
On se sent diminué, mais vraiment, on a toutes les ressources pour aller mieux et très vite, plus vite qu'on le pense.
Votre livre est paru chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.